Et du coup, on s'est dit, non, on va faire un truc beaucoup plus structuré, donc une association, ce qui va nous permettre de faire tout plein de choses. Et donc voilà, c'est déjà un petit peu le. On lance ça parce on peut un petit peu se targuer qu'on a l'habitude un petit peu du terrain, des différents pays, donc des différents contextes où les journalistes travaillent. Pas que les journalistes, hein. Il y a aussi des activistes, des blogueurs, parfois certains cabinets d'avocats qui travaillent avec ces activistes pour les défendre. Donc c'est toujours des problèmes, vraiment des problèmes de sécurité, de communication sur Internet ou même sans Internet.
Et en fait, l'idée est venue de toutes les formations qu'on a pu faire pour toutes ces ONG et surtout des retours qu'on a eus sur le terrain, parce on a eu l'occasion d'aller faire des formations avec des journalistes en Afghanistan, au Pakistan, dans tous les pays en ce temps, mais aussi en Thaïlande, en France, beaucoup. Et en fait, on a reçu pas mal on a également travaillé avec beaucoup d'autres ONG qui font ce genre de formation. Et on a eu énormément de retours terrain sur les besoins de ces gens-là. En fait, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait entre ce que font des grosses structures type voilà Reporters sans frontières qui fait des choses très bien, ou je sais pas si vous en connaissez d'autres dans ce style-là, il y a Internews, il y a Tactical Tech, et entre ce que eux proposent et ce que les gens arrivent à digérer comme connaissances, à emmagasiner et par rapport au fait que ça correspond à leurs besoins, il y a quand même un petit fossé. Mais un autre truc intéressant, c'est qu'au cours de ces, ça fait presque 7 ans qu'on fait ça maintenant, je pense, on a eu l'occasion de tisser un gros réseau avec pas mal de journalistes qui sont intéressés par tout ça, de gens qui travaillent dans la sécurité, d'activistes et différentes ONG.
Oui, et il y avait aussi, c'était juste en arrière, il y avait, oui, c'est ça, le réseau de tech et de journalistes. Il y a déjà eu des petits noms. Il y avait des événements sur, je ne sais pas si vous avez entendu parler des GIAC. C'était un collectif qui faisait des journées ou des formations journalistes hackers. C'était sur Paris, donc ça, c'était aussi très sympa, mais toujours très court. Il y a aussi le problème de le retour d'expérience, c'est que c'est toujours les formations qu'on faisait, c'était 3 jours, 4 jours au mieux. Donc en 3 jours, 4 jours, on devait former des journalistes à la sécurité. C'est très compliqué. Donc souvent, c'est la frustration qu'il en ressort des journalistes et de nous aussi. Et derrière ces 3 jours de formation, c'est plein de demandes. Et on s'est rendu compte que malheureusement, la plupart des ONG, elles n'ont pas ce mandat, en fait, pour pouvoir continuer l'aide sur le long terme, que ce soit en appui technique ou en soutien logistique ou même des conseils. Parce que, par exemple, moi et Grégoire, on a dû former quelques centaines de journalistes. Imaginez le nombre de mails qu'on reçoit, on ne peut juste pas répondre. Et ça, c'était un problème, parce que derrière, on avait un boulot, parce qu'on bosse avec des ONG. Et du coup, là, on va avoir un petit peu peut-être ce luxe de pouvoir plus travailler dans le temps, d'avoir un peu plus de disponibilité, ou pouvoir, nous, derrière, mettre une structure humaine en place pour pouvoir répondre à ces choses-là.
Ouais, parce que je sais pas si vous connaissez le fonctionnement des ONG, mais grosso modo, une ONG, c'est une structure qui va chercher des sous pour monter des projets. Donc tant qu'il y a des sous pour faire fonctionner le projet marche. Mais quand il y a plus de sous, le projet s'arrête. Sauf que le projet s'arrête alors qu'il y a encore des gens sur le terrain qui ont toujours des besoins. Et ça, c'est un des gros problèmes auxquels on a été confrontés, qu'on a pu constater. Alors nous, on essayait d'y répondre avec nos petits bras, mais on n'a pas assez de petits bras pour faire en sorte de pouvoir répondre, faire du support assez régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit qu'on allait monter une structure. Et il y a un autre problème aussi avec les ONG. Les ONG, les organisations non gouvernementales, souvent, elles ont un mandat. C'est-à-dire que, par exemple, la FIDH, c'est, je connais pas la baseline, mais c'est la Fédération internationale de la défense des droits de l'homme, qui travaille avec des activistes qui travaillent dans les droits de l'homme. Reporters sans frontières travaille plutôt avec des journalistes. Tactical Tech, c'est avec différents types d'activistes, mais très liés à la technique. Sauf que, en fait, les populations sont jamais aussi scindées. Quand on fait une formation avec des gens, il y a des journalistes, il y a des blogueurs, il y a des avocats. Et en fait, très souvent, le mandat d'une ONG restreint pas mal la possibilité d'ouvrir les possibilités de collaboration avec des gens qu'on initie sur place, que ce soit dans des pays à l'étranger ou en France. Et ça, c'est un problème qui est un peu lié au mandat. Alors, faut rester cohérent et faut suivre son mandat. Mais nous, on a décidé d'être complètement incohérent et d'avoir un mandat beaucoup plus large. Il y a aussi un autre souci avec les ONG. Souvent, enfin, c'est pas un souci, mais c'est une réalité. Il y a Dans les ONG, il y a plusieurs types de fonctions. Il y a ce qu'on appelle les opérations qui déploient les projets sur le terrain. Et il y a des fonctions support, c'est la communication, c'est les RH, c'est ce genre de choses. Et très souvent, il y a assez peu de compétences techniques en interne. Or, quand on travaille sur tout ce qui est soutien à la sécurité, la protection des données, protection des informations, eh bien, on a besoin de ce genre de compétences. Et très souvent, les structures dans lesquelles on a pu passer n'étaient pas assez armées pour ça. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher des gens à l'extérieur pour continuer à faire ça. Et ce qu'on a décidé, là, c'est de faire l'inverse, c'est internaliser ces compétences dans une structure.
Oui, il y a autre chose aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Une ONG, elle n'a pas... C'est marqué vocation à administrer, par exemple, des infra. Concrètement, on veut apporter l'aide à un groupe de journalistes au Togo qui travaillent sur un sujet. Il n'y a pas aujourd'hui, à part la CIG ou des gros organismes comme ça, il n'y en a aucun autre qui a le mandat pour pouvoir appuyer de façon sur le long terme à fournir une infra, des serveurs, etc. Il y a très peu d'ONG qui sont capables d'apporter ça parce que ce n'est pas dans leur mandat, tout simplement. Et donc ça, c'est... Nous aussi, c'est là-dessus aussi qu'on va tabler sur ce terrain-là, c'est d'apporter, au-delà de la formation et du training, c'est de leur apporter des infras, de l'aide, un appui, etc.
Et donc c'est pour ça qu'on a fait, on a monté une association en février. Alors c'est une association, c'est vachement important pour nous. Je vais expliquer pourquoi. L'association qui s'appelle Nothing to Hide. Évidemment, c'est un petit clin d'œil. Pourquoi on s'est dit qu'on voulait faire une association et pas une entreprise ou pas une ONG, parce que là il y a des ONG qui sont des assos et des fois il y a des ONG qui sont pas des assos, parce qu'une ONG, en fait une ONG ça fonctionne un peu comme une entreprise, c'est-à-dire que normalement, je sais pas qui est un peu familier du monde associatif ici. Plein. Donc vous savez que dans une asso, il y a des membres qui élisent un conseil d'administration, qui lui-même élit un bureau. Donc il y a quand même tout un procédé démocratique et c'est le conseil d'administration qui dit tiens, on va faire plutôt tel projet, ou le bureau qui gère, on va dire, l'asso au quotidien. Sauf que les ONG, ce sont des associations qui marchent bien, mais qui se sont professionnalisées. Et c'est-à-dire que les gens qui font marcher, avancer la structure, par exemple sur des gros mastodontes comme Amnesty ou même encore une fois la FIDH que j'aime bien par ailleurs, hein, ce sont les permanents, les salariés qui font marcher le truc et qui connaissent l'opérationnel et le quotidien beaucoup mieux que le conseil d'administration. Et en fait, dans beaucoup de structures, on constate malheureusement une espèce de déconnexion entre le conseil d'administration et les salariés. Et ça, c'est assez dommageable parce que ça fait que le CA qui est légitime, qui est élu, a complètement perdu la main sur la façon dont sur la direction que doit prendre la structure. Donc, on a créé une asso en février qui s'appelle Nothing to Hide. On n'est pas très nombreux pour l'instant, mais c'est normal parce qu'on vient de commencer. On a une vingtaine de membres. On va faire des assemblées générales. La première AG a eu lieu en mai. On a voté à main levée pour élire le conseil d'administration, qui lui-même après a voté pour élire le bureau, dont nous sommes membres évidemment. Hein. Bon, c'est la démocratie, mais dans une certaine mesure. Non, je plaisante, mais on porte le projet, donc on a été considéré comme légitime. D'ailleurs, merci aux membres. On a également des statuts avec un mandat dont on va vous parler un petit peu. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est à la fois ce qu'on va faire. Nous, notre objectif, c'est de faire un peu le pont entre des techs et des gens qui n'ont pas de compétences techniques. Et ce qui est important, c'est aussi la façon dont on va le faire. C'est pour ça qu'on a créé une association, parce qu'on veut le faire. On veut réintroduire un petit peu de démocratie et de vie associative dans ce genre de projet. Alors, on a un très beau CA. Je ne sais pas si on peut... Enfin bon, vous pouvez aller voir sur le site. Je te laisse parler du CA avec qui on est. Enfin...
Oui. Alors, le CA, il y a... Pour l'instant, il y a des journalistes. Alors, on a vraiment... pour le coup, c'est vraiment des journalistes qui font du terrain. Alors, c'est plus des reporters qui vont sur le terrain avec lesquels j'ai travaillé. Donc, et eux ont été intéressés et se sont dit « Ok, on est partant » parce qu'ils ont vu l'importance... du bousin et du boulot qui reste à faire dans leur métier. C'est les premiers à être super sensibles et à se dire que ouais, dans notre métier, c'est n'importe quoi. Donc voilà, ils nous ont rejoints assez facilement. Il y a Étienne Huvert qui est venu l'an dernier, ici même, pour faire une conférence sur Areva Uramine. sur l'investigation qu'il a faite sur Areva Uramine, donc il nous a rejoint. Il y a Amaël Guiton qui est venu ici, qui bosse chez Libé et qui est très axé numérique, loi, internet, etc. Donc très très cool. Il y a Pierre-Laurent Constant je ne sais plus exactement son poste, mais il bosse chez Envoyé Spécial et Complément d'Enquête, qui nous a rejoint et qui est, j'ai envie de dire, qui est le monsieur sagesse, je pense, ou du moins qui va s'imposer comme le monsieur sagesse du CA. Il y a qui, j'oublie, Roméo Langlois, qui est un journaliste de France 24, qui est, au-delà que c'est, il est super cool, lui aussi est très axé là-dessus, et au sein de France 24, il milite aussi pour qu'il y ait des formations, pour que les journalistes qui partent sur le terrain comme lui ne partent pas à poil, et ça c'est très important. Aide-moi.
On a aussi des avocats, parce que quand on travaille sur des sujets liés à la surveillance et la censure, avoir des avocats, c'est plutôt intéressant. On a d'autres gens qui font partie d'ONG. Donc on a, je ne sais pas si vous connaissez Internet sans frontières. Il y a Julio Guono qui est juriste, qui nous a rejoint. On a une avocate qui travaillait au bureau juridique de Reporters sans frontières. Et on a d'autres gens d'ONG, Bibliothèque sans frontières. On a le DG qui est là-dedans. Donc en fait, parce qu'on a voulu un CA avec des membres qui, là pour le coup, on va être très honnête, qui ont un peu d'entre gens pour aller proposer ce genre de pour aller porter le projet, parce que on s'est dit bon, pourquoi on va faire une association avec Jean-Marc, on aurait pu très bien avec nos petits bras faire des trucs, sauf qu'on s'est dit si on s'entoure de gens, et ben on va aller plus loin, on va faire des choses plus intéressantes, et on va être pris plus au sérieux. Par exemple, typiquement, moi j'ai fait des chiers de formation dans des écoles de journalisme. Sauf que à chaque fois que j'ai fait une formation dans une école de journalisme en France, j'étais invité par l'association des étudiants de l'école de journalisme, jamais par les enseignants eux-mêmes. Et donc on pouvait, on contactait les écoles, on disait bah ça serait pas, ça c'est intéressant. Sauf que bah vous allez, ils passent 3 ans à apprendre l'importance de la déontologie dans cette profession. Il passe des heures carrées à parler de la charte de Munich, qui est un peu le texte fondateur sur la profession de journaliste et l'éthique associée. Il passe des heures carrées à parler de droit. Mais par contre, quand vous leur dites, il faut absolument que vous sachiez protéger vos sources juridiquement, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais les moyens pour le faire quand on travaille avec des outils numériques, eh bien, il y a, si ça commence à arriver un petit peu, mais il y a quoi ? Il y a 2 heures, 3 heures dans des cursus, je crois que Lille le fait un petit peu. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va aller prendre des journalistes qui, eux, qui sont un peu reconnus, qui ont eu des prix à droite à gauche, qui vont aller voir les écoles et qui vont dire, bon, écoutez, moi je suis journaliste, ça fait 15 ans que je bosse là-dedans, je pense que ce serait pas mal que vous intéressiez au sujet. Et on pense que ça va être plus efficace de faire ça comme ça plutôt que d'y aller avec nos petits bras.
Ouais, et j'ai exactement le même constat avec les journalistes qui bossent dans des rédacs ou pour des médias ou peu importe, qui prennent contact avec moi pour les aider sur un truc. Alors ça va du coup de téléphone en disant mon Windows y plante et blablabla, évidemment ça c'est un peu comme la famille, tout le monde l'a, mais parfois pour d'autres choses, c'est une personne d'un média, voire 2-3 personnes du même média, et à un moment donné ce serait quand même, on gagnerait du temps directement à aller dans le média, à prendre contact avec les DSI entre 2 voyages en avion, s'il aurait le temps de venir et puis de former ses équipes, etc. Ce serait beaucoup plus productif. Donc c'est à peu près le même constat en école du journalisme ou dans les médias. Il faut essayer de faire de l'entrisme. Alors il faut continuer, hein, ça marche, les petites mains, de faire des petites formations à droite et gauche, c'est un truc qu'il ne faut pas arrêter. S'il y a 2-3 journalistes dans une rédaction qui sont protégés, c'est un peu inutile, en fait. Pour la rédaction et pour le média, c'est totalement inutile. Donc le but, c'est aussi d'arriver à ça et qu'ils aient des bons réflexes là-haut.
Ouais, pendant des années, on a essayé de faire ça par capillarité. Ça marche, mais à un moment, ça s'arrête. Alors, on s'est dit, tiens, on va attaquer par le haut. On a déjà fait des trucs parce que l'asso existe depuis février, donc on a eu quelques mois pour faire des choses. Bon, on a commencé, on a fait encore une fois des formations dans une école de journalisme à Strasbourg, à l'initiative de l'association des étudiants de cette école. Et alors, tout l'intérêt de faire une asso, c'est aussi de pouvoir travailler avec des gens qui n'ont pas de sous pour accéder à ce genre de compétences et de formations. parce que des journalistes qui travaillent chez France Télévisions, bah, je ne sais pas si vous savez, mais chez France Télévisions, il y a une espèce de grosse machine de formation. Il y a une université qui donne des cours sur, je sais pas, les reportages vidéo et la sécurité numérique, je ne crois pas trop. Mais il y a déjà, ils ont déjà des cursus de formation. Donc pour eux, puis même, c'est quand même des structures qui ont un peu de sous. Sauf que le problème, il n'y a pas que des journalistes salariés, il y a aussi énormément de pigistes. Et les pigistes, ils n'ont pas un rond pour se faire payer ce genre de formation.
Ou JRI, hein, c'est la même chose dans le...
Ouais, ou des JRI, enfin des pigistes, des journalistes indépendants, quoi. Et tout l'intérêt de faire une asso, c'est que quand on est une asso, on fait des choses et aussi on va chercher des subventions pour organiser ce genre de formation, louer des salles, acheter du matos, etc., etc. Donc on a fait ça avec Télébocal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le projet de Jean-Paul Lepers, qui est une petite télé associative qui fait des trucs plutôt sympas. Alors là, c'est pour toi Jean-Marc, c'est pour faire des excuses en direct live.
Oui, du coup, parce que j'ai été invité par les étudiants de l'université de Vannes pour faire Hitchhack le week-end dernier, et pour Nothing to Hide, et donc je m'excuse de ne pas avoir été là-haut le week-end dernier, et l'année prochaine, j'irai, promis. Voilà. Et j'ai du coup, alors, pas par chance, mais on a été contacté par l'UNODC, donc c'est l'ONU qui s'occupe de la drug and crimes dans toute l'Afrique de l'Ouest, Sahel, pour faire une formation à Ouagadougou, au Burkina, avec Cenozo. Donc rapidement, Cenozo, c'est... un collectif de journalistes d'investigation africains qui est soutenu donc par l'UNODC. Pourquoi ? Alors, ils ont créé ça parce que, évidemment, là-haut, il n'y a pas les mêmes lois qu'en France pour la protection des journalistes, encore plus d'investigation. Et surtout, quand ils bossent sur la corruption, les trafics de drogue et le crime. Donc, le crime, c'est évidemment tout ce qui est les djihadistes dans les différentes parties du Sahel. Et donc l'UNODC et
évidemment entre autres
et donc l'UNODC et l'ICJ soutiennent ce collectif de journalistes qui sont à peu près 70 de toute la région et donc ils ont organisé un événement à Ouagadougou et donc ils ont souhaité qu'on se rende là-haut, que je discute avec ces journalistes, qu'on fasse non pas une formation parce que 70 journalistes c'est juste pas possible, mais qu'on échange, qu'on fasse un peu de sensibilisation. Et donc c'était plutôt une expérience super cool, et on a pu donc tisser des liens avec tout un réseau de journalistes africains, journalistes d'investigation africains qui font un boulot juste énorme là-haut avec ce qu'ils peuvent. Et du coup, Nothing to Hide va pouvoir servir aussi de plateforme d'échange pour discuter avec des journalistes d'investigation en France qui bossent sur des sujets évidemment en Afrique. Et apparemment, la connexion s'est jamais faite. Et c'est juste dommageable. Voilà. Il y a des journalistes français, quand ils ont su que j'étais là-haut, ils m'ont dit, putain, mais t'as rencontré qui, etc. Je dis, t'es journaliste d'investigation dans tel endroit. Et ils ont bossé à distance sur les mêmes affaires sans se connaître. Et concrètement, il y a des affaires en France qui auraient peut-être pu avancer. Alors là, je parle carrément au niveau judiciaire. Parce que des papiers sont sortis en France dans différents magazines sur une affaire. Et si ces journalistes français avaient bossé avec ces journalistes africains, ils auraient pu sortir beaucoup plus de choses. Et concrètement, je ne peux pas en dire plus parce que c'est streamé, mais voilà, c'est des trucs qui sont juste aberrants aujourd'hui. On est en 2017 et les journalistes ne sont pas capables, entre continents, de travailler ensemble. Et donc ça, du coup, Nothing to Hide va aussi pouvoir faire des liens, etc.
On fait aussi d'autres trucs qu'on ne détaille pas tout de suite. Un mot là-dessus. On a lancé d'autres projets. Alors, autant notre asso s'appelle Nothing to Hide. Pour ceux qui parlent un petit peu anglais, ça veut dire rien à cacher. Autant on va travailler, enfin, et on travaille déjà avec des publics un peu sensibles, des avocats, des journalistes, des militants des droits de l'homme. Donc, comme la conf est streamée et qu'on n'a pas envie de mettre en difficulté les gens avec qui on va monter ces projets, on va demander de couper le son pour qu'on vous raconte un ou deux trucs. Montez après.
Développe.
Voilà. On faisait les slides ce matin, on s'est dit, on fait un truc au THSF, on parle d'internet, on va mettre des photos de chats. On s'est dit que les photos de chats, c'était beaucoup trop galvaudé. Alors on s'est dit, pourquoi pas les poulpes? Non, les poulpes, on a vu beaucoup. Pourquoi pas les poneys? C'est, alors, on n'était pas d'accord. Alors on a trouvé une photo de Jean-Vincent Placé avec une poule et on s'est dit qu'on allait vous la passer. Voilà.
Voilà. Et alors, ouais. Et le moment what the fuck, on continue.
Alors, on vous a parlé de ce qu'on a fait, on vous a parlé de Jean-Vincent Placé, et maintenant on va parler de ce qu'on va faire. En fait, on a vraiment trois grands axes sur lesquels on travaille. C'est la littératie numérique, c'est réduire un peu le fossé entre les techs, et parce qu'il y a un milliard d'outils qui existent et les gens qui en ont besoin qui ne savent pas que ces milliards d'outils existent. Et en fait, dans nos statuts, on a on a quelque chose, on s'engage à travailler avec du logiciel libre et à soutenir le logiciel libre. Alors, petite anecdote d'une formation.
Ah ouais. Ça, c'était en Tunisie il y a 2 ans où je faisais une formation avec des journalistes qu'on avait fait venir d'Algérie, de Maroc, etc. Et forcément, pour expliquer la différence entre HTTP et HTTPS, je pose la question. Et j'ai trouvé cette réponse géniale où il m'a dit bah, HTTPS, c'est HTTP au pluriel. Et ça m'est resté et j'ai trouvé ça. Oui, t'as fait une erreur.
Ouais. C'est le petit moment what the fuck.
Et j'ai trouvé ça génial, mais du coup, ça illustre vraiment. Si tu peux juste revenir en arrière. Et ça illustre. Non, pas lui. Non, non. Non plus. Je sais pas. Si, c'est pas grave. Ouais, ça, c'est vraiment réduire le fossé entre le tech et le terrain. Parce qu'il y a eu beaucoup. Alors, on va parler des crypto-parties. Les crypto-parties, c'est juste génial. C'est super. Après, il y a une différence réellement sur le terrain quand on travaille avec des journalistes. Quand je commence une formation, je ne parle même pas de technique. Le premier truc que je fais, c'est comment ça fonctionne un ordinateur, comment ça fonctionne Internet. On ne peut pas commencer à expliquer le chiffrement avec VeraCrypt, du PGP, du VPN en veux-tu, en voilà, si le mec ne sait même pas qu'il a un disque dur dans sa machine. Voilà. Et comment fonctionne à minima Internet. Donc ça, c'est vraiment... C'est pour vous expliquer qu'on part de là quand on fait du training. Et souvent, les gens ils voient la lumière déjà juste là. Ensuite, après, on continue, on va dans des trucs un peu plus techniques. Donc, c'est vraiment pour expliquer que la technique et le terrain, il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de choses à travailler entre les deux communautés, si j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment un fossé. Voilà. Et il ne faut jamais oublier qu'un journaliste, il est journaliste. Voilà, faut oublier les onliners en Python. Non, mais vraiment, c'est super important. Il est journaliste, il n'est pas dev. Il n'a pas tellement de temps à accorder à nos trucs de geek, pour être clair. Il a un boulot de ouf. Quand il est JRI à l'étranger, il fait ses trucs la journée, le soir il rentre, il doit envoyer ses trucs là-haut, etc. Il faut qu'il dorme un peu. Et il n'a juste pas le temps des trucs. Il faut que ça fonctionne. Alors, j'ai vu des fois des discours, ouais, les journalistes, ils ont qu'à faire un effort, il faut qu'ils deviennent geeks. Non. Si un journaliste a le temps de devenir, c'est super cool, tant mieux. Moi, j'ai des gros doutes. Voilà. C'est comme demander à un tech de devenir journaliste. C'est juste très compliqué. Donc, il y en a certains. Oui, donc voilà.
C'est des moutons à 5 pattes, ceux qui font les deux.
Voilà. Et en plus, il y a plusieurs types de journalistes. Il y a évidemment les journalistes, ceux qui sont en France, dans des médias écrits. Ceux qui partent à l'étranger pour faire du reporting, etc. Donc, c'est vraiment... ils n'ont pas tous les mêmes besoins, etc.
Alors, on parlait de logiciels libres. Alors, quand on parle de sécurité, les logiciels libres, en général, c'est quand même un prérequis. Mais ce n'est pas forcément évident, il faut l'expliquer. Et en fait, ce qu'on s'engage à faire, on n'est pas développeur. Enfin, si on était développeur, on n'aurait pas fait ce projet-là. Ce qu'on a envie de faire aussi dans le cadre de cette organisation, on va assembler des briques de logiciels pour faire des outils qui sont simples à utiliser. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment abaisser le coût d'accès à des outils de chiffrement. Alors, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, mais nous, on veut soit le faire nous-mêmes, soit et ça, ça va faire partie d'une des choses qu'on va faire. Soit aller chercher des sous pour financer des projets, parce que le projet, les projets libres, les outils libres, ça fait des années qu'on en utilise, qu'on prêche leur utilisation dans ce cadre-là, et pas uniquement. Sauf que personnellement, dans les structures dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai vu assez rarement des ONG qui distribuent énormément d'outils libres pour faire en sorte que leur mandat soit rempli. J'ai vu rarement des structures aller financer des projets. Sauf que le problème du logiciel libre, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi les soutenir financièrement. C'est une des choses qu'on souhaite faire, c'est donner de la visibilité, aller chercher des sous pour financer des projets qu'on va utiliser.
Oui. Basiquement, c'est ouais, si on peut pas apporter une aide de façon technique à un outil, c'est au moins d'essayer de participer en faisant des donations. Et c'est vrai que je vois tous les manuels d'aide, etc., qui soient en ligne ou ça, ouais, utiliser Tails, utiliser. Ça c'est super, mais faut à un moment donné donner un peu d'argent à ces gens-là qui font un boulot parce qu'ils sont pas obligés de le faire. Et donc ouais, ça c'est vraiment très important. Et on peut même, pourquoi pas, par exemple, forcément donner de l'argent à un outil ou à une équipe de dev qui fait des trucs, ou regarder un projet qui est pas abouti et se dire ça c'est intéressant, ça serait pertinent de mettre de l'argent pour pouvoir le développer. Moi j'ai une idée concrète en tête, c'est le pendant de Math, c'est un outil qui est fait pour nettoyer les métadatas de vos fichiers. Ça n'existe juste pas sous Windows. Un truc en GPL, etc., ça n'existe pas sous Windows. Et ce serait pas mal que ce soit porté ou que ça existe, parce que Windows, c'est utilisé. Partout. On a beau être pro logiciel libre et GNU Linux, voilà, on est obligé de faire avec. Et concrètement... Si on peut juste couper le son 30 secondes, que je vous donne une anecdote, ça doit être super frustrant pour le stream. Salut.
On n'est pas tout seul dans ce projet-là. D'ailleurs, c'est la minute remerciement. comme vous disiez, on s'est entouré de gens qui ont un peu d'entre gens justement dans notre CA. Il y a des gens qui font partie de médias, il y a des ONG, mais il y a aussi les copains de Paula qui nous donnent un coup de main.
Depuis très longtemps, hein, Paula, alors là pour le coup.
Alors merci Paula.
Ouais, si vous pouvez les applaudir. Franchement. C'est super important parce que c'est une petite asso, ils font pas de bruit, ils font des trucs. Et il y a 4-5 ans. Maintenant 4-5 ans.
4-5 ans,
voilà. Ouais, j'ai été les voir en disant, ouais, voilà, je fais un truc pour une ONG et tout, est-ce que tu peux, machin. Mais dans l'instant, ils nous ont mis un serveur, une connexion, etc. Et ils nous ont aidés, ils nous ont appuyés sans jamais rien demander. Et. Ciao.
Il y a Theta Neutral qui nous a beaucoup aidés.
Ouais.
Alors, c'est vrai.
Theta Neutral, je crois qu'ils sont venus. Theta Neutral, j'ai adoré parce que. Il y a quelques années, j'ai emmené quelqu'un qui était neutral au fin fond de la Turquie.
Si vous voulez, nous, on va devoir couper le son.
Non. Là où actuellement, il y a Mathias qui est détenu à Gaziantep, un photographe qui est détenu par l'État turc. On espère qu'il va être libéré très rapidement. Donc j'ai amené quelqu'un là-haut. Et c'est assez drôle parce qu'avant, je dis bon, voilà, il faut qu'on amène quelques techos dans ce lieu-là pour travailler avec des journalistes syriens et tout. Et donc j'avais pris contact avec. Quelques autres personnes, et puis, ah non, oh là là, ça craint Gaziantep, j'y vais pas, la Turquie, tout ça, hein. Et Theta Neutral, ça s'est fait en un mail, quoi. Et c'est pas. Donc bravo, vraiment bravo.
Il y a la FDN aussi qui nous a donné un gros coup de main avec. Avec des serveurs qu'ils ont mis à disposition. Ouais. Il y a Octopus aussi qui nous donne un coup de main. Et aussi tout ça, ce ne serait pas fait sans. Ça, c'est plutôt le réseau de Jean-Marc.
Oui, c'est mon réseau. C'est plus l'époque où il y avait pas mal d'accordspace sur Paris. Il y avait des trucs comme. Ouais, les accordspace, le quad camp qui m'a marqué hein, avec Télécomics, le FF et la Quadrature.
Non, il y a quelques années. On n'est pas de monde parce que par tous les
noms. C'est pas grave, mais voilà, c'était des lieux, c'était des rencontres où il y avait des gens qui se rencontraient. Voilà, et c'est juste on rencontre des gens et après, deux trois ans après, on les recroise, on fait le truc ou on le fait pas. Mais c'est dans ces lieux-là, en fait, qu'il y a quand même pas mal de trucs qui naissent.
Donc, merci à tous ceux qui nous donnent un coup de main. Et puis, on est ouvert à tout type de questions, y compris sur tout. Donc, voilà, c'était la fin. Je voulais juste vous présenter ce projet et surtout le retour d'expérience qu'on a eu sur tout ce qu'on a pu faire au cours de ces dernières années dans tout ce qui a trait à la sécurité numérique, etc. Merci.
Remarque d'abord, juste pour le plaisir, pour protéger ses sources sur le stream, il suffit peut-être pas de couper le son, mais aussi de masquer sa bouche, pour pas qu'on puisse lire sur les lèvres.
C'est pas faux, on va supprimer le...
Non, mais il suffit de mettre la main devant. Une question, parce que le nom est en anglais. Je me demandais quels sont vos contacts et vos connexions dans le monde non francophone. Et est-ce que, par exemple, avec le Bureau for Investigative Journalism ou le Center for Investigative Journalism, peut-être que j'ai en parlé au début, que j'ai raté.
Oui. Alors, on est tout neuf. Oui, on est tout neuf, février, tout ça. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans une optique. On a des choses. On a fait des choses. On est en cours de faire des choses. Évidemment qu'on va tisser des contacts. Mais on préfère tisser des contacts en faisant des choses. Parce que d'expérience, on a vu que quand on forçait des rendez-vous, des machins, on se dit « ouais, bonjour, machin, moi je suis pas du tout du genre à avoir une carte de visite sur moi, j'en ai pas depuis 6 ans, c'est pas demain que j'en aurai, ou pas, mais j'ai besoin d'avoir eu. » Et je pense que c'est en faisant les choses que ça va amener les connexions. C'est en faisant les choses qu'on a rencontré Paula, c'est en faisant les choses qu'on a bossé avec Lumo CD, tout ça, donc oui. Alors là, la partie non francophone, on a effectivement la chance d'avoir pas mal bourlingué dans différents pays. Donc évidemment, en Afrique, on a beaucoup de contacts. Au Moyen-Orient, on a beaucoup de contacts. On n'a pas forcément de contacts dans toute la partie... alors, Amérique, non. Quoique. Mais on est vraiment... C'est vrai que les contacts, c'est à peu près... Bah, c'est tout ce qu'on a fait par le passé en voyage. Donc c'est quand même beaucoup plus Moyen-Orient et Afrique. Vraiment.
Ouais, puis les contacts, c'est plus que des organisations. C'est des gens, pour l'instant, avec qui on va travailler, éventuellement, avec qui on va atteindre des organisations. Mais pour l'instant, c'est vraiment des gens dont on sait qu'on a confiance, on se connaît, ils ont besoin de choses. Et après, si on fait des choses avec des organisations, tant mieux. Mais pour l'instant, de toute façon, on s'est dit, faisons les choses petit à petit. Et si demain, on est multinational, ben, on sera multinational. Enfin, c'est pas trop notre objectif. Mais c'est plutôt des contacts avec des gens.
Oui, du coup, et ouais, c'est super important des contacts avec des gens directs parce que ça, on est très peu au sein de l'asso, donc on peut réagir très vite, être vraiment très flexible. Donc c'est vrai que moi je préfère directement dealer avec 2-3 journalistes, 2-3 activistes, où tout de suite on peut leur apporter un puits. Il n'y a pas 40 tonnes de paperasse pour ouvrir un VPS ou machin, ou leur faire livrer un laptop parce que machin, voilà. Donc vraiment on mise sur le contact le plus direct et pour l'instant.
Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais deux questions. La première, je me demandais, avec l'expérience que vous avez maintenant, sur plusieurs années quand même, et la vision que vous avez pu avoir du domaine, est-ce que vous avez l'impression que les choses s'améliorent, dans le sens où on sait que la sécurité informatique, c'est une course. Les journalistes essaient de se former, mais les États aussi, ils prennent de plus en plus conscience de l'intérêt de la surveillance. Ils concentrent de plus en plus leurs forces sur la surveillance de journalistes qui peuvent juger à risque, et du coup, la course, de votre point de vue, en ce moment, qui c'est qui la gagne, ou qui c'est qui la gagne? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien qu'avant?
Alors, c'est mieux qu'avant. Je dis pas c'est mieux dans l'aspect les journalistes gagnent. On gagne pas contre un gouvernement. Ils ont les ressources, ils ont le temps. Ça, ceux qui font des trainings sécurité info et qui se pointent devant des participants en disant « je vais faire du 100% sécur avec moi, machin », fuyez direct. Mais par contre, il y a vraiment du mieux. Énormément de journalistes viennent vers nous, viennent vers moi, conscients de la menace. Dernièrement, justement, quand j'étais au Burkina, où il y avait tout plein de journalistes de différents pays, même juste au Costa Rica, etc., qui étaient là, je leur ai balancé les documents de Joseph Cox là, sur les leaks, et je les ai mis sur la table, et ils ont fait un rush dessus pour savoir si leur pays était dans la liste. Donc il y a réellement une prise de conscience à ce niveau-là.
Et j'ai envie de dire, s'il y a une prise de conscience, c'est que c'est gagné. Parce qu'ils vont tout de suite savoir que, bon voilà, si je fais ça, j'oublie pas, je suis potentiellement surveillé sans rentrer dans une parano excessive. Et du coup, ils vont forcément prendre un petit peu des mesures. Donc oui, il y a vraiment une évolution. Bah, évidemment, c'est grâce à tout ce qui sort, comme Lix, etc., régulièrement, à Kim Team et tout ça, donc ça fait une petite prise de conscience. Et même sur les journalistes en France, effectivement, il y a un déclic qui s'est fait. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot, évidemment.
Moi, je suis beaucoup plus pessimiste, ça tombe bien parce que on est deux, donc on a des opinions différentes. Il y a un mieux peut-être dans la prise de conscience, mais en tout cas, sur le plan législatif, moi je trouve qu'il y a une aggravation exceptionnelle. Juste à titre d'exemple, ça m'a vraiment frappé, j'ai bossé 5 ans chez RSF. Quand je suis arrivé, juridiquement en France, le problème le plus grave c'était Adopi. Et je suis parti en 2013 quand c'était la loi de programmation militaire, la loi sur l'interdiction de consultation des sites terroristes. Et je prends l'exemple de la France parce qu'on est en France, mais c'est la même chose dans énormément de pays. Au Pakistan, sur lequel j'avais travaillé un petit peu sur la partie juridique, il y a une aggravation des lois. Alors vraiment sur la partie juridique, je suis extrêmement pessimiste. Mais c'est pas parce que ça se passe pas bien qu'on va pas faire des fautes. C'est tout l'enjeu.
Et justement, ce qui est très intéressant aussi, c'est quand on va discuter avec des journalistes, quand on fait une formation avec des journalistes en Afrique ou au Moyen-Orient, on leur parle aussi de ça. On leur parle pas que de sécurité, on leur dit aussi, vous êtes journaliste, surveillez les lois. Et puis il y a la plupart, ouais, mais c'est nous, c'est cool, il n'y en a pas. Je dis, bah, c'est pire, en fait, qu'il n'y en a pas, parce que c'est nos limites. Par contre, ils vont commencer à en faire. Par exemple, en Afrique, il y a des pays où le taux de pénétration Internet est faible, ça commence à monter. Et là, bizarrement, les lois, elles commencent à naître. Là, voilà, en ce moment, au Burkina, il y a des lois antiterroristes, évidemment, de surveillance, etc., qui vont se mettre en place. Parce que, tout simplement, ça y est, l'Internet arrive, avec les opérateurs qu'on connaît. Voilà, qui ont un comportement absolument dégueulasse, comme Orange, par exemple, qui est en France, machin. On va voir ce que Orange fait à l'étranger. Voilà, quand le gouvernement demande à Orange dans un pays, oh là là, mon Dieu, il y a une manif coupée, pouf, Orange s'exécute corps et âme. Et donc ça, c'est aussi aux journalistes de faire du monitoring, de se dire, voilà, il y a des lois, ça nous regarde, parce qu'ils protègent leurs sources, etc. Donc il y a aussi un petit plaidoyer pour qu'ils prennent conscience de ça.
Juste la deuxième question, qui sera plus courte, je pense, de toute manière. Du coup, par votre activité, forcément, vous êtes en contact avec des gens et des données assez sensibles, ce qui fait de vous un point d'intérêt aussi, en plus des journalistes. Je me demandais, comment est-ce que vous abordiez cet aspect-là de votre pratique?
Comment j'aborde ça? Alors, quand je vais faire un training avec des journalistes, c'est un training, donc je ne suis pas censé travailler avec eux, ils ne sont pas censés me donner des dossiers sensibles ou quoi que ce soit. Le seul truc, quand je vais en training, qui est sensible, c'est la liste des participants. Quand je passe les frontières ou quand je vais dans le pays, voilà. C'est le seul truc, concrètement. Alors, après, il ne faut pas se leurrer. Les gouvernements, ils savent que je vais faire un training. Voilà, alors, de temps en temps, on essaye de me déguiser. Chose, il faut pas les prendre pour des manches, quoi. Clairement, donc le gros risque, c'est pas pour moi, c'est pour eux, parce que moi je vais faire un training chez eux, je reste 3-4 jours et je me barre, je rentre chez moi. Eux, ils restent là-haut. Et oui, pour eux, ça peut être parfois un risque d'avoir suivi un training, etc. Je leur dis aussi que jusqu'à présent, ils n'utilisaient pas d'outils de VPN, ils connaissaient pas Tor, etc. Et du jour au lendemain, ils vont commencer à utiliser ça. Et pour leur gouvernement, c'est des signaux. S'ils étaient surveillés, du jour au lendemain, pof, ils disparaissent. C'est pas cool non plus. Donc il y a tout. Oui, voilà. Mais nous deux, on n'est pas forcément une cible.
Mais par exemple, vous disiez tout à l'heure, il y a certains qui vous envoient des documents parce qu'ils veulent vérifier ou quelque chose comme ça.
Ah oui, non. Là, c'était dans un cadre bien particulier. Voilà. Après, c'est arrivé que des journalistes, effectivement, m'envoient ça en disant ouais, là, c'était pas tip-top secure, évidemment. Et je leur rappelle que, oh là là, attention. Moi personnellement, j'ai jamais senti de sauf évidemment, mais bon, ça c'est encore une autre chose. Mais ouais, le plus gros danger pour moi, c'est de rentrer en France et d'en sortir. C'est là où je suis le plus contrôlé à la police aux frontières, beaucoup plus que si je vais en Afghanistan.
Quand on voyage avec Jean-Marc, il faut prévoir 45 minutes en plus pour le passage à la frontière.
Ouais, ce que vous disiez tout à l'heure sur la surveillance des lois, c'est un truc que je fais un petit peu. Sur la loi renseignement, par exemple, il y a effectivement une disposition qui dit que journalistes, avocats, magistrats et parlementaires ne peuvent faire l'objet d'une mesure de surveillance dans l'exercice de leur mandat ou de leur profession. Donc c'est en regardant comme ça, en regardant le vernis de la disposition, on se dit ben, c'est bien, la France est une démocratie éclairée, protégeant les intérêts des citoyens, sensibles on va dire. Donc voilà, le seul souci c'est que lorsque vous lisez à contrario l'article en question, cela signifie que avocats, magistrats, parlementaires, journalistes peuvent être surveillés dans l'exercice de tout sauf de leur profession. Et le souci, c'est que lorsque un avocat, un magistrat, un parlementaire, un journaliste est surveillé par les services du renseignement, ceux-ci ne peuvent pas par avance déterminer si ce qu'ils vont entendre relève ou non de l'exercice du mandat de la profession ou de la vie privée. Conclusion, s'ils savent des éléments qui sont extrêmement sensibles à la défense des intérêts fondamentaux français, je ne parle pas forcément de la lutte contre le terrorisme, ça peut être aussi des infractions économiques, et bien les services du renseignement sont obligés d'oublier. Mais je suis sûr qu'ils y arrivent. Je ne suis pas si sûr.
C'est tout. Il n'y a plus d'autres questions ? Ah, une question au fond ?
Bonjour. Moi, c'était plus pour ouvrir à d'autres professions, parce que enfin, vous parlez des journalistes et des juristes, tout ça, mais beaucoup plus proche de moi, en tout cas, je sais que typiquement, mon médecin, mon orthopédiste, n'importe quoi, lui, ses données, il les chiffre pas. Est-ce que, quand c'est communiqué à un labo pour faire des analyses médicales, tout ça, il y a peu de sécurité, ça c'est pratiquement sûr. Je pense que c'est pas la sécurité adéquate en tout cas. Et est-ce que, je sais pas, vous avez une vocation à vous ouvrir vers ce genre de choses, ou est-ce que vous connaissez des gens vers qui je peux aiguiller les professionnels ?
Alors, nous, on a commencé à travailler avec plutôt des gens qui travaillent dans des professionnels de l'information, parce que c'est un peu notre réseau qui est là-dedans. Mais en effet, on a prévu un mandat assez large pour l'asso, en fait, c'est tout type de personne qui a besoin de ça. Alors, grosso modo, personnellement, je pense que c'est tout le monde, toutes les professions. Mais nous, on n'y arrivera pas. Pour vous orienter, il y a des crypto-parties, mais j'en parlais là dans un peu tout à l'heure. Je pense que s'il y a un endroit où tu peux trouver des gens avec qui discuter de ce genre de choses et qui peuvent te donner des coups de main, c'est ici. Mais nous, on sera ravis de te donner un coup de main. Bon, moi, s'il y a encore d'autres questions, parce que sinon après, il y a une conférence super intéressante sur la peut-être pas autant que la nôtre, mais pas mal. Sur la copie privée. Voilà. Merci.